pour critiquer l'Amérique de son temps. Ou le problème que rencontre Bourdieu quand, au fond, voyant de la domination partout, peut-être à juste titre, mais à ce moment-là, il est obligé de se demander, alors qu'est-ce qu'on critique? Qu'est-ce qu'on va critiquer? Qu'est-ce qu'on va vraiment critiquer? Eh bien, si on considère que la contradiction herméneutique est toujours plus ou moins latente dans le social, il faut bien regarder des formes plus ou moins satisfaisantes de faire face à cette contradiction herméneutique. Donc j'essaie d'aller... Alors, pour venir à la domination, donc, on va dire que la domination va être un moyen de maintenir le plus possible une conception de ce qui est, des formats d'épreuve et des règles qui permettent de maintenir des asymétries. Pour dire les choses très, très simples, des asymétries profondes et donc pour favoriser des exploitations. Mais là, je vais distinguer, de façon très classique d'ailleurs, ce n'est pas du tout original, deux types de domination. Un type de domination que j'appellerais la domination patente, et un type de domination que j'appellerais la domination gestionnaire. Je ne sais pas si c'est le bon terme que je garderais, mais bon. Dans une domination, dans un régime de domination patente, vous avez des institutions, d'habitude d'État, qui font leur travail d'institution, qui réaffirment sans arrêt une orthodoxie, qui font des cérémonies, qui font des épreuves, mais ce que j'appelle des épreuves de vérité, c'est-à-dire des épreuves qui n'ont aucun contact avec la réalité, dans laquelle l'épreuve est simplement le déploiement d'objets symboliques qui se confirment les uns les autres. Comme quand vous mettez en même temps, je sais pas, les grands défilés communistes de la place Rouge est un bon exemple de ça. Quand vous mettez des vieux militants, un cadavre embaumé, des fusées, tout ça se renvoie à un héros de la patrie. Vous pourriez prendre des épreuves religieuses dans le monde contemporain, etc. Alors, et quand la critique fait mine de bouger, on maintient l'orthodoxie en recourant à la répression dans un mouvement de guerre perpétuelle, avec comme objectif de refuser le changement. Au fond, c'est pas très intéressant, c'est pas une forme de domination qui est très sophistiquée, ni très intéressante. La chose sophistiquée, au fond, c'est l'analyse des formes de la confirmation, des formes rituelles de la confirmation, pour un sociologue. À ça, je pense qu'on peut opposer un autre régime de domination qui, je pense, a un caractère récent. Je pense que c'est une invention relativement récente dont les formes sont peut-être pas encore pures, mais disons dont les bonnes formes se mettent en place il y a une trentaine d'années. 30-50 ans. C'est un régime de domination dans lequel la domination va s'opérer non pas en entravant le changement, mais par l'intermédiaire du changement, en opérant sans arrêt des changements, en valorisant et en accompagnant le changement. Et c'est en cela que ce régime de domination est lié au capitalisme, dans la mesure où le capitalisme est un mode d'exploitation qui prend une large assise sur le changement, qui se maintient dans l'être non pas comme tout être en changeant, mais qui réellement exploite le changement pour maintenir une domination. Alors, mon argument est que un point central, c'est que ces changements vont porter tantôt sur les formats d'épreuves, le droit, les procédures, les règles, tantôt sur la réalité elle-même, c'est-à-dire sur le monde en tant qu'il est confronté aux épreuves, et y compris en tant, je dirais, en tant qu'il s'agit d'épreuves en soi, en tant qu'il ne se sent, qu'il n'est même pas apparemment éprouvé. Un point tout à fait central des élites modernistes, telles qu'elles se mettent en place, c'est Giscard en France qui a été qui est un très grand politique, pour qui j'ai autant d'antipathie que d'admiration. C'est Giscard qui a mis au point ces formules. Donc, il a été le premier, auprès de qui ces formules se sont réellement installées, avec cette idée assez étrange sur laquelle Bourdieu et moi avions écrit un article il y a 30 ans qui s'appelait « La production de l'idéologie dominante », selon laquelle il faut changer parce que la réalité change, donc on ne peut pas rester en arrière. Ce sont des schémas déterministes que l'on pourrait appliquer, ou que des positions de droite pourraient appliquer au matérialisme, déterministes, disons marxistes, un peu coupés, un peu rudes, complètement réappropriés dans le cadre du libéralisme. La réalité change, donc on ne peut pas rester en arrière, il faut la suivre, c'est une nécessité, l'insistance est entièrement mise sur la nécessité, mais c'est une nécessité qu'il faut vouloir. Il y a donc un accrochage complet, assez bizarre malgré tout, entre la nécessité et la volonté, et le désirable. Il faut désirer la nécessité et l'accompagner, sinon tout sera pire. Alors, pourquoi est-ce que l'insistance sur la nécessité est tellement grande ? Bien, évidemment, parce que les changements mis en place, s'ils ne sont pas présentés comme nécessaires, sont arbitraires. C'est un changement qui est mis en place parce qu'il satisfait les intérêts d'une personne, d'un groupe, et donc ils perdent, dans un régime libéral démocratique, leur légitimité. Alors, ces changements peuvent porter alternativement sur trois choses. Ils peuvent porter sur le monde. Là, j'ai un petit flou entre monde et réalité. Ils peuvent porter sur le monde, mais par l'intermédiaire de micro-changements ayant très peu de science, faisant peu appel au droit. C'est largement les genres d'opérations qui se font à partir des marchés financiers. J'étais au jury d'une thèse d'une étudiante argentine, Mariana Heredia, qui a fait un travail magnifique sur la façon dont en Argentine s'est fait un changement de régime politique non vu, non explicite, en passant d'un régime, disons, à légitimité populaire, à un régime fondé sur l'expertise économique. Vous avez tout un ensemble d'opérations, des centaines, des milliers d'opérations quotidiennement, qui, particulièrement depuis la dérégulation et la gouvernance d'entreprise, permettent de changer sans arrêt le monde dans ses plus petits détails. Donc le monde change. À ce moment-là, s'impose l'exigence de changer les formats d'épreuves. Parce que vous n'allez pas garder des formats d'épreuves qui ne correspondent plus au monde. Je vais en donner un exemple très très simple, parce que je vais m'arrêter dans très peu de temps, qui est le passage de ouvrier à opérateur dans le cours des années 80, qui a été voulu par le management, qui a considéré les ouvriers, c'est l'ouvrier tayloriste, ce n'est plus du tout l'ouvrier d'aujourd'hui, il n'a plus du tout les mêmes propriétés, il ne fait pas la même chose, c'est une réalité à laquelle on ne peut rien, les processus productifs ont changé. Donc, on va lui donner une nouvelle qualification et on va monter des nouvelles épreuves de sélection correspondant à cette nouvelle réalité. Donc on change le droit, on va changer le droit du travail, on va changer, etc. On change les formats des preuves. Une fois ce travail accompli, les formats des preuves, particulièrement quand ils sont appuyés sur le droit, deviennent nécessaires, ils ont une nécessité. Tout un ensemble de gens qui sont des acteurs de terrain vont agir à leur tour sur la réalité en prenant appui sur les formats des preuves, en tant qu'elles sont, ceux qui ne sont, peuvent pas changer. Monsieur Ben Kassim, vous êtes renvoyé, comme dans la graine et le mulet. C'est pas du tout qu'on vous aime pas. C'est pas du tout qu'on vous aime pas. Mais vous ne correspondez pas du tout aux nouveaux critères qui sont inscrits d'ailleurs dans la charte de management de l'entreprise, correspondant aux façons dont nous organisons le travail. Donc c'est pas de notre faute. Donc il y a un double processus de réification on va d'abord réifier la réalité comme étant ce qui obéit à des lois. Toute la sociologie rentre là-dedans, c'est des lois auxquelles on ne peut rien, mais il faut s'adapter ou mourir. Donc, c'est la sélection naturelle. Et puis, on va ensuite réifier les formats des preuves de façon à changer la réalité. Aujourd'hui, les outils principaux qui font ça sont des outils qui étudient et qui analysent magnifiquement mon ami pour qui j'ai la plus grande estime, Alain Desrosières, qui sont des outils de benchmarking et de construction de palmarès qui permettent une performativité du social et une réactivité permanente du changement des critères et des formats d'épreuves sur la réalité elle-même. Alors, je vais finir sur un dernier petit argument à peu près aussi rapidement fait que le reste. Si on dit, voilà, on a un régime de domination. Domination qui... Bon, qui a besoin de la police, il n'y a pas de régime de domination sans police. Mais qui n'a pas besoin de sortir tout le temps la police. Est-ce qu'on a une classe dominante? Un des problèmes centraux, je pense, aujourd'hui de la critique et de la gauche en général, c'est qu'elle n'a plus d'ennemis. Qu'on ne sait pas où est l'ennemi. Je ne suis pas schmittien du tout, ne vous inquiétez pas, mais il faut quand même identifier un adversaire. Il n'y a même pas d'adversaire. Alors, qu'est-ce que l'on peut appeler classe dominante? Je vais dire des choses très, très rapides et pas du tout justes. Donc, je pense que je reverrai tout à fait, mais bon. Bien évidemment, pour que ce processus marche, il faut que le changement des formats d'épreuve et le changement de la réalité ne soient pas faits en même temps par les mêmes personnes, parce que sinon on se retrouverait dans un cas de figure qui ressemblerait à un arbitraire. Il faut donc bien une forme de lien, une forme de solidarité, on va dire en termes de kémien, entre des gens qui font des tâches tout à fait différentes, qui font des statistiques, qui font de l'économie, qui dirigent des entreprises, qui sont juges, qui etc., etc. Alors, qu'est-ce qui fait le lien entre ces gens? Ça n'est pas certainement uniquement le fait d'être du bon côté des rapports de propriété. Ils peuvent ne pas posséder directement des biens de production, etc. Ça n'est pas non plus, à mon sens, l'explication par l'habitus qu'on trouve chez Bourdieu est insuffisante, surtout à une époque de globalisation où il n'y a pas de raison que des gens qui ont des goûts différents en matière de cuisine ou d'art ne se retrouvent pas dans des situations de connivence, qui n'ont pas été dans les mêmes écoles. Moi, je dirais que un élément, je ne dis pas du tout que c'est l'élément unique, de leur solidarité est un type de relation identique par rapport à la règle et en même temps par rapport à l'action. Je dirais que que la question de l'action est centrale. Dans les rapports de domination, vous avez des gens qui n'ont même pas d'action sur leur propre vie, qui sont ballottés, Vous avez des gens qui ont un peu d'action sur un peu de gens, et vous avez des gens qui ont une grande action, personne n'est tout puissant, mais une grande action sur beaucoup de gens. Et que ces gens qui ont une grande action sur beaucoup de gens, on va les appeler des responsables, en jouant sur le double sens du terme. À mon avis, la classe dominante, c'est les responsables. Et leur forme de solidarité, c'est qu'ils ont un certain rapport à la règle qui est le suivant, qui est, et qui leur vient de cette double expérience du changement de la réalité et du changement des formats d'épreuve. Il faut bien des règles. Des règles. Il faut bien que les gens suivent des règles, sinon ça serait l'anarchie. On ne pourrait rien coordonner, on pourrait. Mais, entre eux, ils savent bien que si on suit les règles, on ne fait rien. Ils savent bien que si on suit des règles, au fond, ils sont végétaliens par certains côtés. Ils savent bien que celui qui suit des règles ne peut pas vraiment agir et surtout il ne peut pas faire de profit. Il ne fait rien. Et donc, leur secret, c'est qu'ils ne suivent pas les règles. Et leur solidarité, c'est que chacun sait très bien que l'autre ne suit pas les règles et qu'on ne va pas lui jeter la pierre pour ça. Lisez le sang contaminé de Marie-Angèle Hermite, le droit et le sang sur la crise du sang contaminé. C'est un exemple magnifique de connivence de ce genre. Et donc, dans la domination, il y a au moins deux choses. Il y a la capacité à contrôler l'incertitude quant à savoir ce qui est, à tenir les formats d'épreuve, du même coup, une fois établi ce qui est, à édicter des règles pour maintenir ce qui est, mais il y a également une asymétrie fondamentale par rapport à la question de la règle, c'est-à-dire que la règle c'est pour les autres. Alors bien sûr que les autres aussi sont des êtres humains, donc aucun être humain ne peut suivre une règle, donc eux aussi, mais ils ne peuvent échapper à la règle que dans la transgression, dans tout ce qu'a décrit par exemple l'histoire sociale sur la culture d'atelier, mais d'une façon qui ne permet pas, tant qu'elle n'est pas mise en forme politiquement, d'avoir pouvoir sur la réalité et sur les formats des preuves. Bon, je m'arrête là parce que j'ai dépassé mon temps et je m'en excuse. Merci.